Radio Foot International.
Olivier Prompt.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Radio Foot International. Deuxième service, on vous l'avait dit, pendant que la dame rencontre Pharaon et Rennes du côté du Caire, nous, sous la pluie de Paris, nous vous proposons rien de moins que la crème. De la crème du foot avec les quarts de finale aller de la Ligue des Champions, deux hier, deux ce soir, et quelles affiches! La jeunesse emballante et conquérante de l'Ajax Amsterdam, tombeuse du Real, on s'en souvient, en huitième de finale, face à la Juventus de Turin de Cristiano Ronaldo, ambitieuse à souhait cette année. Et puis le miraculé du Parc des Princes, tombeur du PSG Manchester United qui se frottait sur ses terres au grand Barça, Barcelone dont on sait que pour le spectacle et le résultat, tout dépend de Lionel Messi. Nous en profiterons pour faire au passage un petit bilan global de ces quarts de finale aller en nous projetant vers les matchs retour. Ce sera dès la semaine prochaine, mardi et mercredi prochain. Ça vous va, messieurs Barré et Djellit, ce programme initial?
Bonsoir, messieurs. Bonsoir, 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 Olivier, bonsoir, Olivier, bonsoir à tous. Bonsoir, Hugo.
Bonsoir. Nabil était déjà là hier. Xavier, vous nous avez rejoint. On a même Hugo Moissonnier qui a répondu favorablement à notre invitation. Merci, Hugo.
Merci à vous, surtout de m'avoir invité. Bonsoir à tous.
La suite, ce sera le retour du football circus, notamment des projets prêtés aux propriétaires du PSG. Il se dit en effet, du côté de la presse italienne, que QSI, Qatar Sport Investment, aurait fait une offre de 400 millions d'euros pour racheter la Roma. Carrément, le propriétaire actuel de la Louve, un Américain, dément, et en principe, ce genre d'opération n'est pas autorisé par l'UEFA. Ça vaut sa question. Tout comme la réforme à venir de la Copa América, qui va se caler sur les dates de l'Euro dès 2020, et donc revenir tous les 4 ans, en principe, décision qui répond à un souhait des grands clubs européens qui veulent harmoniser le calendrier international. Est-ce que cela peut influer sur les CANs à venir? Il y a beaucoup à dire. Pour le reste, je m'en remets au bon soin du dénommé Thibaut pour ouvrir les micros quand il faut et à Pierre-Olivier Guérin pour animer les réseaux sociaux. Et puis je voudrais dédier cette émission à un homme, un confrère qui s'appelait Jacques Segui, ex-patron de l'émission Tout le Sport sur France 3 et fidèle auditeur de RFI lorsqu'il était sur le continent. On en avait souvent parlé, notamment lors des Jeux de la Francophonie de Niamey en 2005 dont il avait été le conseiller. Grand professionnel, exigeant et passionné, il avait 80 ans et il s'est éteint hier du côté de Troyes dans l'Aube. Une pensée pour les siens. Allez, on y va. La Ligue des Champions, la suite, quelles affiches, messieurs, ce soir? Hier, moi, personnellement, j'étais resté un petit peu sur ma faim, notamment avec ce Tottenham-Manchester City, qui ressemblait plus à un match tendu de Première Ligue qu'à un vrai quart de finale de Ligue des Champions, là, ce soir. Sur le papier, c'était déjà un peu plus emballant, notamment le duel des miraculés des huitièmes. On se rappelle que la Juve avait été battue 2-0 à l'Atlético Madrid avant de s'imposer 3-0 chez elle. L'Ajax, battu 2-1 chez elle à l'aller. Et puis vainqueur 4-1 à Bernabeu. À l'arrivée, on va commencer par ce match-là. Un partout, et soyons honnêtes, on s'est régalé, non? Un petit tour de table rapide.
Ah ben complètement, complètement. Chez moi, j'ai un double écran. Je regardais chez moi avant de vous rejoindre. Et j'avais
regardé... Il y a des moyens chez les Barrettes.
La première mi-temps, j'étais sur le Barça. Le Manchester United Barcelone. Et j'avais dans la petite lucarne Ajax Juventus. Et la deuxième mi-temps, j'ai inversé. Oui, j'ai inversé. Et franchement, cette Ajax, elle est formidable, elle est emballante. Elle a réussi à revenir encore une fois au score comme elle l'avait fait lors des tours précédents, contre le Real Madrid notamment, puisqu'ils étaient menés chez eux contre le Real et par le Real. Et donc, il y a vraiment une fraîcheur, une spontanéité dans cette équipe qui est emballante. Les statistiques, je crois qu'ils en sont à 19 tirs sur la totalité du match, dont 6 ou 7 cadrés.
6 cadrés.
6 cadrés, voilà. Et la Juventus, un seul tir cadré. Hein. C'est ça le football.
Mais alors, bon. Il y a une deuxième mi-temps quasiment à sens unique en faveur de...
Alors déjà, moi je vais être très sincère, j'ai regardé les deux, mais j'en ai regardé vraiment un et j'ai fait semblant d'en regarder un autre parce qu'il n'y avait absolument pas photo sur les deux matchs ce soir. Pour moi, l'Ajax-Juve, ça vaut, en termes de qualité de jeu, ça vaut plus qu'un quart de finale. Ça a été absolument extraordinaire avec une opposition de style. Xavier rappelle à juste titre cette génération dorée, mais malheureusement, quelle frustration de savoir qu'ils ne continueront pas ensemble puisqu'ils vont être tous vendus cet été. Et donc ça, c'est le coup
pas
de...
Pas tous, mais un certain nombre.
Ouais, enfin, un certain nombre, en tout cas, les meilleurs.
De Ligt, de Jong,
voilà. Et, très sincèrement, ce Manchester United FC Barcelone, ça a été un match qui a été globalement maîtrisé par Barcelone. Et ça a été un petit Barça et un très petit Manchester
United. On y reviendra tout à l'heure. Restons, Hugo, sur cet Ajax-Juve.
Oui, pour rebondir sur ce que disait Nabil, effectivement, une belle opposition de style. Les statistiques le montrent, beaucoup plus de possession de balles, beaucoup plus de passes réussies du côté de l'Ajax, mais plus de duels gagnés du côté de la Juventus, plus de centres aussi, donc peut-être un jeu plus direct. Au final, un match nul et peut-être un bon test finalement pour la Juventus, hein, qui est vraiment l'un des favoris pour la victoire finale. Est-ce que son style de jeu peut lui permettre d'aller au bout face à ce qui se fait peut-être de mieux à l'heure actuelle en termes de football de possession, l'Ajax Amsterdam.
Mais c'est la Juve, c'est l'Ajax qui oblige la Juve à jouer comme ça. C'est pas du tout absolument voulu, pour moi, parce qu'on a vu la Juve quand ils reçoivent au retour l'Atlético Madrid, ils ont la possession, ils savent aussi jouer la possession. Mais il y a une telle qualité, mais c'est incroyable. Je crois qu'on réalise pas une telle qualité de manière de ballon, de maîtrise, d'animation, d'automatisme entre les joueurs que même la Juve est obligé de se résoudre à jouer un peu comme l'Atlético, parce que moi je suis persuadé que si l'Ajax joue un peu moins au football, vous verriez la Juve davantage avec l'emprise sur le jeu. C'est pas l'Atlético.
Donc la Juventus peut tester en tout cas sa capacité à s'adapter à l'adversaire, en tout cas à travers cette opposition.
Pour eux c'est formidable ce qui s'est passé ce soir, et n'importe quelle équipe au monde aurait pris 3-0, mais ce soir c'était la Juve.
Mais ce qui est formidable, ça va être le match retour, on en reparlera aussi, mais dans 8 jours ce match-là promet tellement au Juventus Stadium, 1-1, on rappelle simplement, hein, juste avant la pause, 1-0, grâce à qui? À Cristiano, ouais. Ronaldo, 125e but en Ligue des Champions. Ce gars-là abat toutes les statistiques une à une. Voilà, encore une fois, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, les chiffres sont là. 125 buts en Ligue des Champions. Et puis, à la 46e, mais non pas de la première mi-temps, mais dans les premières secondes du retour des vestiaires, alors que cette équipe est si jeune et qu'on dit toujours, oh là là, prendre un but juste avant la mi-temps, c'est terrible.
Ah, donc, normalement, ouais.
D'autant plus à la maison. Ben non, ils rentrent des vestiaires et ils égalisent tout de suite grâce à David Neres, un jeune Brésilien de 22 ans.
Oui, non, mais il y a énormément de qualité, de spontanéité, de, j'allais dire presque d'insouciance. Ils sont bousculés, ils sont face à une équipe qui est extrêmement charpentée, extrêmement expérimentée, et ils arrivent effectivement à les bousculer, à les dominer. Moi, la seule chose que je regrette, même si vous vous emballez pour le match retour au Juventus Stadium, c'est que l'Ajax n'ait pas gagné ce match aller. Parce que là...
Ils avaient perdu contre le Real.
Oui, ils
le
avaient
tour
perdu
d'avant.
À la maison.
Certes, je suis d'accord avec vous, la Juve est plus forte que le Real.
Ouais.
Mais c'est limite, ils arrivent avec un match nul, quoi. C'est déjà mieux que le tour précédent.
Oui, mais la Juventus chez elle, on le sait,
c'est la force de l'expérience.
Mais vous pensez quoi? Que la Juve ne pas s'emballer, ça veut dire que vous pensez que ça sera plié à la mi-temps?
Je pense que la Juventus, c'est ce que j'avais dit après le tirage au sort dans Radio Foot avec Annie, il y a quelques jours, c'est qu'effectivement la Juventus a une telle expérience que ils vont passer quand même. Parce
le
que
Real
là,
n'avait pas l'expérience.
Ce match. Oui, mais le Real était dans.
Une... Ils avaient gagné 2-1 à l'aller.
Oui, mais ils étaient dans une période de délitement important. Ils n'ont d'ailleurs pas complètement rétabli. La Juventus, il y a toujours une constance à ce niveau-là, une expérience incroyable. Et on l'a bien vu, ils sont quand même fait bien bousculer par cet Ajax tout au long de la partie et surtout au cours de la deuxième période.
Ils auraient quand même pu l'emporter, parce qu'il y a un poteau en fin de match.
En toute fin de match, oui. Donc, il y a quelque chose de terrible avec cette Juventus, c'est que même quand elle est dominée, elle sait gérer ce genre de situation et donc, par son réalisme, exploiter la moindre occasion de compte.
Mais que c'est frais de voir jouer cet Ajax, on l'a dit cet après-midi avec Sherif Guémour, qui est le grand spécialiste du football néerlandais, un SoFoot spécial qui est sorti là cette semaine, qui vous raconte des tas de choses sur ce club et sur cette jeunesse triomphante. Mais c'est un vent de fraîcheur, c'est un jeu vers l'avant, c'est étonnant.
C'est
on a une moyenne d'âge qui doit être inférieure à 24 ans, même 23
ans. Ils connaissent pas la pression, ils ont une facilité à jouer ensemble en une touche qui est assez incroyable. C'est bien animé. On a des joueurs avec des profils différents. Ziyech passe son temps à dézonner. Il joue un peu comme un quarterback. On a l'impression qu'il a une main à la place du pied. Tadic en remise, franchement, en première intention.
6 buts en Ligue des Champions.
En
cette
talonnade,
saison,
il en a réussi une ou deux absolument incroyables. Très sincèrement, il y a eu des séquences où ils leur ont mis le bouillon. Ils l'ont mis le bouillon. Ils ont fait des séquences de possession quasiment à l'entrée de la surface de réparation de la Juve. Je défie beaucoup d'équipes européennes de faire ce qu'a fait ce soir l'Ajax. Et je suis pas persuadé qu'on en trouve beaucoup. Et c'est une pierre dans le jardin de ceux qui disent que les championnats, certains championnats sont faibles et ne peuvent pas produire des équipes compétitives à très haut niveau. Je suis désolé, le championnat des Pays-Bas n'est certainement pas supérieur au championnat de France. C'est le budget de Bordeaux, l'Ajax d'Amsterdam. Vous avez vu la qualité de jeu ?
C'est le plus faible budget des 8 quarts de finaliste de l'Ajax.
Absolument, mais on voit, il y a eu une action en fin de match avec un petit jeune qui faisait sa première apparition en Ligue des Champions, Ekel Camp. Et c'est amusant parce que moi je l'ai commenté il y a 3 semaines en Youth League contre Lyon.
En Youth League,
en moins de 19 ans. Et ils se font éliminer par l'Olympique Lyonnais au tir au but. alors qu'ils reviennent à 10 contre 11, ils reviennent dans les arrêts de jeu et ils arrachent la séance des tirs au but. Ces jeunes-là, en fait, vous pouvez presque les faire monter en équipe première. C'est le cas pour ce garçon-là. Ils sont tout de suite opérationnels parce qu'il y a cette identité de jeu, il y a cette tradition de formation qui font que ces gamins-là, bien, il y en a qui s'en vont et tout de suite, il y a une nouvelle génération qui arrive.
Après, des fois, c'est avec plus ou moins de réussite parce qu'ils ont connu aussi un creux. Après, c'est aussi le talent individuel. Je veux dire, on peut parler de la philosophie, de l'ADN, ce style de possession, mais à un moment, il y a la qualité aussi première des joueurs et leur qualité de recrutement, parce que Ziyech, il n'est pas formé, par exemple, à l'Ajax d'Amsterdam. Il arrive des Reven, du FC.
Même Tadic, c'est loin d'être également un cador au moment où il signe.
Tadic, c'est une des révélations de la compétition. C'est absolument
un gardien de but.
Incroyable. Onana, le Camerounais, qui est franchement au rendez-vous sur cette compétition. Vous avez raison, Olivier, quand vous dites que c'est un vrai vent de fraîcheur. Et très sincèrement, ça fait du bien. Alors, je ne sais pas ce qui va leur arriver, mais potentiellement, ils ont le droit de penser sur ce qu'on a vu face au Real et à la Juve. En termes de jeu, ils ont le droit de croire en leur bonne étoile et ils ont le droit de croire qu'ils peuvent gagner cette Ligue des Champions.
Onana, on va le voir à la CAN.
Avec le
Cameroun.
Le Cameroun,
quelle question. Bah, ce serait dommage de le laisser. Enfin voilà, je suis pas sûr que les Camerounais aient un meilleur gardien que Nana, parce que franchement, il est performant et à très très haut niveau là.
Bien sûr. Mais c'est vrai que c'est un très très bon gardien dans une équipe où c'est difficile d'être gardien parce que comme ils ont le ballon tout le temps, le gardien est assez peu sollicité. Les rares fois où il est sollicité, c'est effectivement sur des contre-attaques souvent et des
actions. Il doit être bon du pied quand même, l'ami Onana, parce que pour jouer dans une équipe comme ça, il a aussi des qualités aussi de.
Et sur le but de Ronaldo, il a rien à se reprocher.
Il est pris à bout portant par la tête.
Il est fusillé parce qu'il la touche quand même un petit peu.
Il peut rien faire. Au niveau du gainage, quand il s'agit de mettre des têtes,
il est au départ de l'action, Ronaldo, et il est de la tête. Parlez-nous de Neres, le légalisateur.
Oui, parce qu'on avait beaucoup parlé après le match retour contre le Real Madrid. De Ziyech, de Tadic, on parle depuis très longtemps de Ligt, de Jong, vous prononcez ça comme vous voulez. Je vous signale que Neres, il avait marqué au Bernabeu, il a marqué le but, le deuxième but des Néerlandais, brésilien, 22 ans, vous le disiez, Olivier. Acheté 12 millions d'euros, hein, quand même. Ouais. Donc on met quand même de l'argent quand il le faut, acheté à Sao Paulo à l'hiver 2017. 12 buts, 15 passes décisives pour lui cette saison. Ça fait un double-double, hein, comme on dirait en basket. Donc c'est quand même pas mal au niveau statistique. C'est sa deuxième réalisation donc en Ligue des Champions cette saison. Voilà.
Mais comme l'équipe.
Hugo Moissonnier a rappelé un élément important, c'est que l'Ajax met de l'argent aussi sur les joueurs.
Cette année, c'est 11 millions.
Voilà, ils ont récupéré Daley Blind qui était à Manchester, ils l'ont récupéré, je crois, pour 15 millions, quelque chose comme ça. Pareil, Tadic, ils l'ont pris aussi pas gratuit, ils l'ont récupéré. Donc, ils ont quand même injecté plus de 50 millions d'euros sur le marché des transferts cet été, parce qu'ils ont effectivement cette ambition européenne, ils sont récompensés de cette ambition. Donc, il y a cette qualité de formation, mais pour encadrer ces jeunes de talent, il y a aussi quelques anciens, des anciens qu'on fait revenir, comme Daley Blind, hein, puisqu'il a été formé à l'Ajax, ou des joueurs un peu plus expérimentés qu'on va chercher ailleurs, parce qu'on pense qu'ils peuvent apporter quelque chose. C'est pas totalement nouveau. On peut rappeler que Luis Suarez était passé par l'Ajax aussi.
Zlatan
Ibrahimovic, bien sûr. Donc ça fait partie. Alors Zlatan très jeune.
Bertrand Traoré aussi.
Oui. Donc voilà. Donc ils essayent beaucoup de choses et dans le lot, ils ont souvent de la réussite.
Donc ça veut dire, si je vous suis bien, qu'on n'a pas besoin de jouer dans un très très grand championnat, ni d'avoir une grosse rivalité, qu'on n'a pas n'est pas obligé de mettre 220 millions pour un transfert par exemple, mais qu'on peut se contenter de faire des transferts à 10-15 millions et on peut être très compétitif à très haut niveau.
Il y a une histoire, il y a une culture. Il y a un projet qui est cohérent. Il a bien été expliqué par Xavier.
Avec beaucoup d'anciens joueurs qui sont là pour. Il y a des jeunes comme au Bayern.
Tout à fait. Il y a des jeunes à fort potentiel. Le directeur sportif, c'est Marc Overmars, par exemple. C'est quelqu'un de.
Et
le
chef du club, pratiquement, c'est.
C'est Van der Sar, le gardien.
Voilà, ça tombe pas non plus du ciel. Je veux dire.
Un peu comme le Bayern. Hein. On retrouve beaucoup d'anciens très haut placés.
Mais c'est un retour au premier plan. Après, moi, j'ai une réserve. C'est que certains vont partir. Enfin,
oui,
mais il y a 20 ou 30 ans, il partait pas. Xavier, à l'époque de Cruyff, il partait pas.
Cruyff, il a fini par partir.
Ouais, mais on les voyait sur une séquence de 4-5 ans ensemble. Non, vous imaginez que s'ils restaient ensemble pendant 1 ou 2 ou 3 ans, ces joueurs? Ce serait absolument incroyable.
Et c'est vrai que de l'Ajax qui est arrivé en finale de la Coupe de l'Europa League, l'ancienne Coupe de l'UEFA, il y a 2 ans et demi maintenant, ils sont presque tous partis.
Davinson, Chantez,
il y avait déjà Ziyech. Oui. Il y avait déjà Onana. Mais il y avait déjà De Ligt, Schoen, De Jong, qui étaient quand même déjà là.
Il y en a, mais Justin, après vous avez Traoré qui est parti, vous avez le petit Kluivert qui est parti.
Davinson Sanchez,
le défenseur colombien qui est à Tottenham maintenant. Vous avez quand même un certain nombre de départs, et à chaque fois, et là, c'est ce qu'on peut craindre. On sait déjà que Frenkie de Jong va rejoindre Barcelone cet été. De Ligt va probablement partir aussi. Ziyech également. Donc, il y a encore un certain nombre d'éléments qui vont partir. Mais l'école de l'Ajax fait qu'ils vont revenir. Vous disiez que ils sont dans un championnat où il n'y a pas de concurrence.
Il y a quand même une concurrence régulière
avec le PSV Eindhoven, oui, qui est champion quand c'est pas l'Ajax. Feyenoord est un petit peu en dessous. Mais voilà, il y a quand même une vraie tradition de rivalité entre ces trois grands clubs qui fait qu'il y a un bon niveau, qui fait que ce championnat des Pays-Bas est en Europe le 6e ou le 7e, juste derrière la France, au niveau du Portugal.
Le match retour, moi je l'annonce comme un méchant, on n'est pas tout à fait d'accord avec M. Barret, mais il est ouvert.
Attendez, allez demander aux joueurs de la Juve ce soir ce qu'ils ont pensé de la qualité de cette équipe qu'ils ont rencontrée. Est-ce qu'ils en ont rencontré beaucoup cette saison ? Alors certes, ils sont prévenus. Ils ont vu que le Real avait été éliminé à domicile. Ils viennent de les rencontrer, ils les ont croisés, ils ont une insouciance qui est incroyable. Très sincèrement, il va falloir vraiment serrer les lignes du côté de la Juve, parce qu'ils sont pas à l'abri d'être mis en difficulté, même chez eux, par cette équipe talentueuse.
C'est pas gagné.
Je veux dire, quand tu vois leur manière de jouer ensemble, je veux dire, on peut pas autant Porto, je pense qu'ils ont aucune chance de renverser la situation face à Liverpool par rapport à ce qu'ils ont fait. Autant cette équipe de l'Ajax, c'est absolument pas à exclure.
Premier quart depuis 2003 pour l'Ajax. Ouais.
Moi, j'aimerais bien que l'Ajax passe, je vous le cache pas. Mais très franchement, vu comment la Juve manage cette campagne européenne avec
Ronaldo,
une influence importante à tous les niveaux. La Juventus, c'est une institution. Ça risque d'être quand même très compliqué pour les jeunes de l'Ajax.
Mais on sera pas malheureux non plus de voir la Juve passer, Ronaldo. Parce que ça joue quand même pas mal aussi. C'est un super stade, grosse ambiance.
Ils ont perdu quand même.
Et Cristiano Ronaldo est quand même un joueur dont il faut profiter.
Ils ont perdu Tagliafico ce soir. Ils ont pas non plus une densité, une réserve incroyable. Je sais que Xavier adore ce joueur, l'Argentin Tagliafico, puisqu'il le voit au Real la saison prochaine. Ça, par contre, c'est une perte importante. Donc, ils vont faire jouer Masraoui, le Marocain, au match retour sur un côté, et puis ils mettront celui qui était latéral.
On aura l'occasion d'en parler le moment venu, parce que finalement il y a quand même un autre quart de finale ce soir.
Juste une petite chose, Olivier,
faire une spéciale Ajax Juve quand même, Nabil Djellit.
Olivier, juste une petite chose, c'est que les matchs retour auront lieu dès mardi.
Oui.
Donc c'est pour
mardi
ça.
Mardi et mercredi.
Oui, mais là, ces matchs-là, du mercredi ont lieu le mardi. Ouais. Donc ils ont 6 jours entre les deux avec un match de championnat au milieu, alors que ceux qui ont joué hier, eux, ne joueront que mercredi prochain, donc ils auront 8 jours. Je comprends toujours pas ce calendrier de l'UEFA.
Mais comprend-on tout du football circus aujourd'hui? Je ne le pense pas. Manchester United, Barça, le miraculé contre l'habitué. Le miraculé, bien sûr, et ça me fait toujours plaisir de le rappeler. Manchester United, grâce au Paris Saint-Germain. Barcelone qui court après un triplé comme en 2009 et en 2015. Championnat, Coupe et Ligue des Champions. Le score 1-0. Un but de Luke Shaw contre son corps. Ils n'ont pas de Suarez, comme ça a été
dommage.
Dit. Et ça l'est encore sur certains réseaux sociaux. La tête n'était pas cadrée du tout de Suarez. Et c'est l'épaule de Luke Shaw qui dévie le ballon dans le but. À la 12e minute, j'ai regardé à 5 minutes de la fin, messieurs, cette stat. Manchester United, 9 tirs, 0 cadré. C'est quand même ballot en quart de finale chez soi. Le Barça, réaliste, 5 tirs, 3 cadrés.
C'est une première depuis 2005 pour Manchester United dans un match de Ligue des Champions. Le fait de ne pas cadrer...
une frappe à la maison.
C'est assez surprenant. Après, il y a eu quand même pas mal de centres du côté de Manchester United. Et certains qui n'ont pas été très bien jugés par Ter Stegen. Mais pour moi, franchement, c'était un match assez ennuyeux.
Le score n'est pas surprenant.
Ouais, voilà. Et puis, c'est surtout... Bon, je suis désolé de le redire ici, mais Paris Saint-Germain peut nourrir des regrets assez incroyables. Et on se souvient tous du scénario qui était finalement très favorable, comme pour Barcelone. Je ne suis pas sûr qu'il y arrive la même maison d'aventure à Barcelone au match retour. Et pour moi, c'est un signe, ce Barça de Valverde. Il est ultra dépendant de Messi. À la 65e minute, il fait quelque chose qui en dit long sur ce Barça qui est beaucoup plus réaliste que flamboyant. Il sort, si je ne dis pas de bêtises, Coutinho et Arthur, qui sont quand même deux éléments plutôt offensifs. Coutinho très offensif, Arthur milieu relayeur, pour rentrer Vidal, donc c'est-à-dire pour mettre un peu d'impact physique, et Sergi Roberto, qui est plutôt un profil défensif. Pour moi, à la 65e minute, il a fermé boutique. Voilà.
Mais oui, il a fermé boutique, on peut pas lui reprocher. En même temps, il mène 1-0 à Manchester, il sait qu'à Barcelone...
Et il rejoue dans 6 jours, voilà. Entre-temps, ils ont un match de championnat avec un titre à assurer. Et surtout on oublie que le Barça a ses résultats parce qu'ils savent aussi défendre. Et là, c'est ce qu'ils nous ont montré à Barcelone. Mais je me souviens gardien du Barça de Cruyff, de temps en temps, il était allé jouer des 0-0. Hein. Voilà, ce Barça-là, bon, bah, il prend vite l'avantage avec ce but un peu heureux sur cette tête de Suarez déviée par Luke Shaw. Et derrière, eh bien, il gère. Il gère en s'appuyant sur une défense avec un Gérard Piqué qui est encore là, avec un Clément Langlais qui est vraiment un garçon.
Alors
qui
d'ailleurs, s'affirme. Il était supervisé ce soir par Guy Stéphan,
ouais,
qui était dans les tribunes.
Il est temps qu'on pense à lui en équipe de France.
Ouais, avec Semedo et Jordi Alba qui étaient bien présents sur les côtés. Sergio Busquets toujours là. On a ce bloc défensif. Et ce soir, ben, c'est vrai qu'on a plus regardé la défense du Barça avec un Ter Stegen sollicité parce qu'on était en Angleterre. Alors effectivement, il y a eu aucun tir cadré, mais il est beaucoup sorti. Il est allé vraiment, il a fait des très bonnes sorties. Ter Stegen, on sait que c'est un très grand gardien, mais on en a eu la confirmation. Donc on voit que ce Barça, c'est Messi, c'est Suarez, mais c'est aussi une défense sur laquelle on peut s'appuyer quand il le faut.
On n'arrête pas de dire cette année, bah parce qu'on observe, et puis parce que c'est vrai aussi, c'est vraiment pas un grand Barça, on a connu nettement mieux. Mais le Barça est parti pour être en demi-finale sans être bien grand, ce qui n'en est pas d'autant plus dangereux.
De toute façon, il est clairement candidat au titre final.
Au triplé.
De toute façon, quand tu as Lionel Messi dans ton équipe, de toute façon, tu es candidat chaque saison. Donc peu importe ce qui se passe autour de toi. Mais effectivement, Xavier a raison, il explique que ce FC Barcelone est peut-être moins flamboyant, plus réaliste, plus rationnel, peut-être moins dans la possession, mais quand même il y a quand même eu ce petit coup de génie parce que cette équipe de Manchester United a été bien regroupée avec deux lignes très très serrées, puis ce petit coup de patte de Busquets parce qu'on n'en parle pas qui permet à Lionel Messi ensuite de pivoter et de se mettre dans le sens du jeu. Donc elle compte quand même toujours sur ses talents historiques, mais voilà, elle est pas très sincèrement, moi c'est mon opinion, je trouve qu'elle a pas été testée ce soir en quart de finale de la Ligue des Champions. Elle ne sera peut-être pas au retour. Je sais pas, je peux pas présager de ce qui va se passer. Surtout avec Manchester United, qui, rappelons-le, a éliminé un autre ogre européen le tour précédent. Vous voyez de qui je parle. Donc voilà, bah, on va attendre le prochain tour. Le tableau pour Barcelone, je crois que si je dis pas de bêtises, c'est Liverpool.
Ouais.
Donc là, ça risque quand même d'être d'un autre niveau si ces deux équipes se croisent.
Quel bonheur ce serait. Que... Pourvu qu'elles se croisent.
Parce que gérer Sadio Mané et gérer Mohamed Salah. C'est pas géré ce soir certains joueurs de Manchester United.
De toute façon, la finale c'est Juve Liverpool, c'est dit, c'est écrit, on l'a vu.
Ah bon
Non, parce que moi je pense plutôt Barcelone Manchester City, mais bon.
Ouais, ben non, je reste sur mon Juve Liverpool, mais je suis tellement mauvais pronostiqueur, faut pas me suivre là-dessus. Je n'ai rien dit, rien.
Oui, Hugo. Oui, Nabil disait que quand on a Lionel Messi, on est forcément favori pour la victoire finale. Le Barça, parlait du triplé de 2015, depuis ça cafouille un petit peu quand même en Ligue des Champions, parce que ça dépasse pas les quarts de finale. Là, on parle d'un Barça particulièrement pas flamboyant cette saison. Alors, j'ai un peu du mal à comprendre comment ce Barça-là serait capable de réussir là où ses prédécesseurs, les années précédentes, échouaient.
Parce que quand Messi n'était pas là, effectivement, c'était très inquiétant, mais il pouvait être relayé par Neymar, par exemple. Parce que je rappelle que la MSN, c'était un concept qui a plutôt marché du côté du FC Barcelone. Moi, je trouve que ce FC Barcelone est beaucoup plus dépendant de Messi cette saison. C'est la saison de tous les records. Pour lui, il marche absolument.
Donc, c'est un avantage ou un inconvénient pour aller.
C'est les deux pour moi, parce qu'il ne faut pas qu'il lui arrive quoi que ce soit. Voilà, c'est terrible ce que je dis, je ne lui souhaite absolument pas. Mais il porte cette équipe comme il ne l'a jamais portée. Peut-être qu'au bout d'un moment, ça finira par avoir ses limites également.
Ouais, il faudra peut-être que Suarez finisse par marquer un but à l'extérieur. Il y a cru aujourd'hui, hein. Ouais, pendant quelques minutes, c'était même.
Non, mais
lui.
Il est relayé par. Non, vous avez raison, Olivier. Il est relayé quasiment par personne. Offensivement, Coutinho, ce soir, fait un match correct. Ousmane Dembélé, c'est trois bons matchs et je me blesse. C'est assez exceptionnel quand même. Ils sont tranquillement en demi-finale. Je veux dire, ils sont.
Oui, mais enfin, il a débouté. Il y a à finir en boîte de nuit. Vous me faites rire. C'est commandé, c'est payé. Hein.
Tu sais rien. Alors, je répondrai comme il a répondu sur Twitter à un de nos confrères. Tu sais rien du tout.
Non, mais non, rien. Et je vous le confirme. C'est purement gratuit. C'est l'heure. Manchester United. Bon, le Solskjaer avait fait une équipe tellement défensive qu'on pouvait pas s'attendre à autre chose, non.
Ça a démarré en 3-5-2. On pensait qu'il y avait quelques intentions de jeu. Et ensuite, très rapidement, ils se sont mis en mode
8-2.
Ouais, 8-2. Donc, moi, je comprends. Alors, très sincèrement, Olivier, je comprends que Pogba ait envie de jouer au Real.
Sauf que ça fait deux fois qu'il passe quand même à travers d'un match de Ligue des Champions à élimination directe. Pogba. Alors, est-ce que le Real aura envie d'avoir un joueur comme ça?
Ils ont un stade qui s'appelle le Théâtre des Rêves. Oui.
Non, mais l'objectif de Manchester United, et on le sait très bien avec Xavier, c'est la remontada en première ligue, c'est de finir dans les quatre premiers, retrouver. la Ligue des Champions encore la saison prochaine, repartir peut-être avec un groupe plus réduit et peut-être recruter un ou deux joueurs là où ils ont des difficultés, notamment en axe central, peut-être aussi sur les côtés. Ce soir qu'on a vu que Dalot c'est encore un petit peu jeune, Valencia à droite c'est plutôt en fin de cycle, donc c'est une équipe
en fin de
qui
contrat.
Est
ouais. C'est même en fin de contrat, ouais. Donc il va y avoir des départs parce qu'il y a beaucoup de joueurs en ouais. fin de contrat.
Alors
il y
en a qui aussi,
il y a Juan Mata, David De Gea n'a pas signé mais ils ont levé l'option de prolongation automatique d'une saison et ouais. Alors maintenant ils ont fait une proposition de prolongation mais c'est pas sûr.
Lui vaut mieux qu'il le garde quand même voilà. Derrière parce que oui, sans oui, lui non,
mais c'est le
parfois
problème
c'est un
aujourd'hui.
Gardien de hand au niveau des
et c'est vrai qu'on se dit que Manchester United est tombé très bas parce qu'aujourd'hui ils ont des joueurs en fin de contrat à qui ils proposent des prolongations, des joueurs en plus qui sont pas des jeunes, hein, ils ont 30 ans et les gars ne veulent pas. Ils vont au bout de leur contrat pour se casser. Donc, Smalling et Phil Jones ont re-signé, mais...
Ah, c'est pas ceux-là qu'il fallait faire re-signer, voilà. Si vous voulez mon avis.
Anthony Martial a prolongé aussi.
Ça, c'est bien.
Après, s'être fait un peu prier. Mais sinon, Juan Mata, non, c'est fini, il s'en va à la fin de la saison. Donc, Ander Herrera aussi, il devrait venir au Paris Saint-Germain. Il y a Darmian, l'Italien, qui part aussi. Non, Matic, il a encore un an de contrat. Donc, je vous disais, De Gea, ils ont levé l'option parce qu'il veut pas re-signer. Donc, il y a quand même... une crise de confiance au niveau de Manchester United qui est inquiétante. On se souvient qu'il y a déjà 3 ans, quand Martial arrive, il le surpaye. Hein, vous vous rappelez, 50 millions d'euros plus 30 millions de bonus.
Ils n'ont jamais été payés. Hein.
Ils l'ont surpayé. Il y en a au moins 10 qui ont été payés.
Parce qu'il fallait qu'il soit nommé dans le Ballon d'Or. Et tout ça.
Ouais. Mais, 10 millions. Ouais. Mais donc, et donc il le surpaye. Il le surpaye parce que ils arrivent pas à convaincre des grands joueurs de venir à Manchester United. Et aujourd'hui, le problème, c'est que le marché est tel que vous avez, en gros, allez, pour les très grands joueurs, vous avez 6-7 clubs qui sont candidats. Vous avez le Real, vous avez le Barça, la Juve, le Bayern. Et puis, vous avez les 3 clubs londoniens et Manchester City. Et aujourd'hui, les joueurs, eh ben, ils préfèrent aller à City bosser avec Pep Guardiola qu'à Manchester United où ils savent pas qui va être l'entraîneur parce que ça change tout le temps. Ou alors, ils préfèrent aller à Londres parce que la vie à Londres est plus agréable qu'à Manchester.
Bon, on a parlé des 4 quarts de finale. Allez, on a quoi comme affiche en demi-finale d'après vous?
Bah, vous les avez donnés. Hein. Moi, je pense que Liverpool va passer, Manchester City va passer, le FC Barcelone va passer et la Juve va passer.
Donc ça nous donne quoi, ça, bah, quand ça croise comme ça en demi-finale, le tirage au sort a déjà été fait.
Oui, ça donne Liverpool-Juve, si je dis pas de bêtises. Je dis pas de bêtises, non?
Non, c'est Liverpool-Barcelone.
Ça donne Liverpool-Barcelone
et
Manchester City-Juve.
Moi, je vous mets...
Peut-être prendre des places, Hugo.
Je vous mets ma veste, là.
Peut-être...
Après, il y a quand même match à l'Etihad entre Manchester City et Tottenham. Parce que c'est, je pense, d'ailleurs, le quart de finale retour le plus intéressant. Parce que ce sont deux équipes qui se connaissent parfaitement. Et puis surtout hier, bah, j'avoue que j'étais un peu surpris par le manque de réaction des citizens de Pep Guardiola. Parce qu'il avait fait un schéma de départ qui était un choix, qui se défendait, plus prudent, avec l'Allemand Ilkay Gundogan associé à Fernandinho, un triangle inversé par rapport à d'habitude, plus défensif. Et surtout, oui, il n'a pas fait de changement en deuxième mi-temps. Il a attendu la toute fin du match.
Le roi Sané de Bruyne à la 89e.
Exactement. Et donc ça m'a surpris de la part de Pep Guardiola, qui, à ce petit jeu, finalement, a été battu par Pochettino. On sait que Pochettino est un grand entraîneur. Il lui manque encore quelques lignes à son palmarès. Mais là, hier soir, eh bien, c'est lui qui a montré qu'il était capable de prendre Pep Guardiola à son propre jeu. Et donc, je suis très curieux.
Donc, le quart de finale retour le plus intéressant.
Clairement, ce Manchester City-Tottenham. Pour
non, moi, c'est pas le plus intéressant. Pour
moi, le Juve-Ajax reste un quart
Olivier.
De finale. Oui.
Ah, je sens que ça...
Tout à fait passionnant à suivre.
Et il est possible que le niveau de ce match soit supérieur à ce qu'on verra par la suite en demi ou en finale, parce que je crois qu'on mesure pas la qualité de cette équipe de l'Ajax en termes de football pur.
Moi, je l'espère pas, mais je crains encore un carton rouge au bout de 45 minutes pour un joueur de l'Ajax et un pénalty foireux à la 65e.
C'est
tellement évident avec la Juventus que je suis encore très, très sceptique.
Demain, on le rappelle, quart de finale aller de la Ligue Europa, ça ronfle moins, mais il y a quand même une belle affiche. Arsenal-Naples, ça pourrait être tout à fait un quart de Ligue des Champions.
Tout à fait.
Arsenal-Naples, Villarreal-Valence,
c'est pas mal.
Le derby. Benfica-Francfort, bon.
Attention à Francfort, Olivier.
Ouais, c'est bon. Ouais.
Attention à Francfort.
Avec l'ancien gardien du Paris Saint-Germain.
Oui, et puis un jeune
c'est
que vous invite à suivre.
De l'équipe.
Et un jeune que vous invite à suivre.
C'est surtout le trio d'attaque. Hein. Jovic, Rebic, Haller.
Et Slavia-Prague. Chelsea a bien besoin de se remonter le moral, pourquoi pas. En Ligue Europa, voilà ce que l'on pouvait dire sur la Ligue des Champions, ce que l'on pouvait dire sur cette Ligue Europa. Les quarts de finale sont prévus demain. On s'arrête là pour les Coupes d'Europe, je vous propose, messieurs. Hein,
avec grand plaisir.
Radio Foot International.
Olivier Pron.
La suite de Radio Foot avec Philippe Doucet, Bruno Constant, Chérif Guémour et le réfé qui nous rejoint. Oh, comme c'est bien fait. À l'instant même, il ouvre la porte, mesdames, messieurs. Le réfé est là, tout sourire.
Ça me rappelle.
Bonjour réfé, bienvenue.
Bonjour.
QSI, Volaroma. On l'attaque comme ça, d'emblée. Direct. QSI, c'est qui? C'est Qatar Sport Investment, pour ceux qui ne le savent pas, les propriétaires du Paris Saint-Germain. Ils ont Paris, ils veulent Rome. On les comprend, c'est pas mal, Rome. Mais donc, ouais. Ils veulent la Roma, selon le Milano Finanza. Ça, c'est notre ami Matteo Cioffi, depuis Milan, qui nous a fait part de cette information, le journal précis. 400 millions d'euros proposés pour la Louve. Leur effet s'est excité là-dessus comme une puce ce matin. Dites-nous en plus. D'abord, c'est assez étonnant. Quel est l'intérêt pour QSI d'aller tout d'un coup s'intéresser à la Roma?
Bah, ça permet de mettre les pieds sur un championnat qui est en pleine progression, comme le championnat italien. On sait qu'il y a des projets de réforme de la Ligue des Champions. On s'est dit que peut-être il y a des opportunités à prendre. La Roma, c'est un club qui fait un petit peu du surplace cette saison, après une belle campagne la saison dernière. Il y a un propriétaire américain, alors on s'est dit que c'est peut-être quelqu'un qui ne cracherait pas sur une bonne occasion de faire une bonne affaire. Mais bon, tout ça paraît quand même assez tiré par les cheveux, d'autant que on voit mal l'UEFA accepter que...
C'est quoi la règle UEFA? On est propriétaire d'un club et pas d'un autre.
Juste avant, donner un exemple, par exemple, la famille Pozzo, famille italienne, qui détient Watford en Angleterre, elle détient aussi l'Udinese en Italie, Grenade en Espagne. Ouais. Donc, et ça sert de plateforme d'échange de joueurs.
On peut avoir plusieurs clubs. Manchester City a maintenant 5 ou 6 clubs donc dans le monde.
Alors, en quoi le rachat de la Roma
pose un problème? Dans la même compétition européenne, un même actionnaire majoritaire ne peut pas avoir plusieurs clubs. Alors la problématique s'est posée cette année. L'UEFA était gênée aux entournures pour les deux clubs Red Bull, où l'un a su démontrer, ils étaient tous les deux en Europa League. L'un a pu démontrer qu'il n'était pas propriété de Red Bull, mais qu'il n'était que sponsor. Enfin bon, c'était un petit peu les ficelles étaient un petit peu grosses, mais bon,
c'est la Ligue Europa
et ça n'a pas la même incidence. Il est évident que si le PSG et la Roma était dans la même compétition, ça poserait évidemment un problème majeur.
Il y a quand même de grandes chances pour que ça arrive.
Y compris si le QSI le faisait de manière intelligente, c'est-à-dire mettait, je sais pas, Qatar Airways comme propriétaire, par exemple, de la Roma. C'est un scénario qui paraît tout à fait plausible. On dit pas que c'est QSI, on dit que c'est Qatar Airways ou je sais pas qui.
Parce que dans la réforme que l'on nous annonce de cette Ligue des Champions pour 2024, dont on a longuement parlé hier dans cette émission, où on se rapproche vraiment d'une ligue fermée, la Roma et le PSG sont directement concernés dans cette ligue fermée.
Qui vous dit que parmi les réformes envisagées, il n'y a pas aussi la possibilité
d'avoir deux clubs engagés. Bien sûr. Il y a peut-être la possibilité pour qu'un mec ait les 24 clubs, comme ça il est sûr de gagner à la fin. Parce que finalement c'est ça. Et mon petit doigt me dit ce sera celui qui a le plus d'argent.
Ça n'a pas d'importance qui gagne à la fin.
C'est quelque chose qu'on connaît par exemple au Mexique où une chaîne de télévision possède 4 ou 5 clubs du même championnat. Donc c'est toujours un peu étrange.
C'est une chose qui existe, bien sûr.
J'en perds mon football.
Non mais dans ce bouleversement total, parce que les 10 prochaines années vont voir un bouleversement total.
Il y avait le football total de l'Ajax, là c'est le bouleversement total du football circus.
On parle plus de football du tout, c'est le circus, voilà. Dans ce bouleversement total, je pense que plein de choses sont imaginables. Aujourd'hui, on voit bien avec les règles du fair play financier et autres que finalement on peut tout détourner avec grande facilité. On voit bien qu'aujourd'hui on est face à des mastodontes qui ont de multiples manières d'arranger de manière financière leur participation ici, leur possession de club là.
Tout le monde semble contre. Alors nous, les journalistes, on pourrait très bien dire oui, vous êtes des journalistes, on se moque de votre avis, très bien, pourquoi pas. Enfin, on est tous. Mais je le vois dans les réactions de nos auditeurs. Et Dieu sait s'ils sont nombreux sur Radio Foot. Quand on a parlé hier de ce sujet, de cette réforme de 2024, pas un a dit sur les réseaux sociaux, notamment sur la page Facebook, sur laquelle est collé notre ami Pierre-Olivier Guérin et avec qui on en discutait. Pas un vous dit c'est une bonne idée.
Oui, mais
pourtant ils sont tous supporters du Real ou du Barça.
Je me permets de vous rappeler que Ça. Oui, quand on a réformé la Ligue des Champions, qui était avant la Coupe de Club Champion, où seuls les champions nationaux s'est qualifié, beaucoup avaient dit qu'on avait jeté aux ordures les principes même d'une ligue qui s'appelait des champions et qui n'était plus réservée aux champions.
Et on s'est habitué très vite, finalement.
Et finalement, aujourd'hui, on a l'habitude de ça.
Tout le monde regarde, tout le monde suit, réforme après réforme. On peut faire une Coupe du Monde à 36, 42 équipes, ça restera une Coupe du Monde. Ça continue.
La Coupe du Monde peut-être. Je ne suis pas sûr. Le débat hier arrivait. Trop européenne. De foot peut tuer le foot. Karine Galli qui était là hier. Non, après les audiences en Berne. Ça dépend.
Tout dépend du format. Je ne suis pas sûr que si tu fais un championnat fermé de grands clubs européens, tu vas te lasser. Parce qu'au final, que tu sois 8e ou 7e ou 3e, ça n'a aucun
sens. Et puis de voir du Real Barça en phase de poule, alors qu'on aime les voir en quart de finale, en demi, voire en finale surtout. Ouais. Est-ce qu'on ne va pas se lasser de voir toujours des affiches
en gros ? Oui, mais là, on va plutôt vers quelque chose qui ressemble plus à la NBA, où vous avez différentes conférences et après des play-offs.
Bon, mais je ne suis pas sûr que ça soit avec les Anglais. Hein.
Non, bien
parce
sûr.
Les Anglais
après...
sont très là-dessus.
Ah oui, mais aucun.
Non, mais ne
ils n'ont aucun
si
patron
certain,
de championnat.
Ils n'ont aucun intérêt financier. Ils n'ont aucun intérêt financier.
Ne soyez pas si certain.
Ouais.
Je trouve qu'il y a en ce moment un mouvement qui est le plus inquiétant de tous, c'est le mouvement des grands clubs anglais qui sont en train de réfléchir de façon très profonde au sujet. Et je ne suis pas sûr du tout qu'au bout de compte, alors là, il y a, le 8 mai, il y a une réunion très importante parce qu'en fait, là, on parle d'un projet qui n'est pas abouti. C'est l'UEFA a discuté avec l'ECA. Et notamment les très grands clubs.
Oui, puisqu'on parlait des grands clubs, je rappelle qu'on est parti de cette info, soi-disant, de la presse italienne, qui parle d'un rachat. Qui parle d'un rachat de la Roma par le Paris Saint-Germain. C'est comme ça qu'on a dérivé jusque-là, parce que tout ça tourne finalement autour de la même chose.
Mais le 8 mai, le vrai départ de la négociation, c'est le 8 mai, où l'UEFA va rencontrer les ligues, qui sont toutes, bien évidemment, toutes contre, car c'est la mort des ligues.
Évidemment.
Il faut se rendre compte que les droits télé, vous avez 1 milliard aujourd'hui. Ça vaudra peut-être 200, 300 millions éventuellement pour voir un championnat.
Pour voir des matchs le mardi ou le mercredi.
Pour voir un championnat où si Lille est champion, ils ne pourront pas jouer à la Ligue des Champions. Vous imaginez le truc? C'est-à-dire que le PSG peut même mettre son équipe B, ils s'en fichent complètement. Une fois qu'ils ont assuré leur place dans les 4 premiers en Ligue des Champions,
les
ils s'en fichent complètement.
Les 6 premiers même, puisqu'on a vu que les 5 premiers sont assurés. Après ça joue
l'essence même du
foot. Et le 7e.
On perdra l'essence même du foot. Pourquoi on regarde du foot? C'est qu'on veut un vainqueur à la fin, on veut qu'il y ait de l'émotion. Pourquoi on a adoré Ajax? Pourquoi on a adoré Ajax Real Madrid?
Parce qu'il y a une surprise.
C'est parce exactement. Et celle qui a gagné est passée au-dessus. Et pas le Real. Dans la prochaine formule, le Real qui sera éliminé jouera encore. Parce que de toute façon, c'est pas grave. C'est le plus riche qui joue, ou c'est du moins la caste des clubs, des grands clubs qui vont jouer. Mais sur l'Angleterre, je suis d'accord, il y a une petite inquiétude et que certains supporters commencent à nourrir. C'est que de plus en plus, les clubs anglais sont détenus par des Américains. Et dans les Américains qui détiennent des clubs de baseball,
les Américains, ils
veulent
basket, pas de risque,
etc.
Ils veulent des clubs qui restent.
Ils veulent des franchises.
Ils veulent faire des plus-values.
Ils veulent des franchises.
Ils veulent surtout faire des plus-values en sortie.
Du profit, voilà, du profit, du match ticket, etc. autour des stades.
Alors, il y a quand même c'est vrai quand même que aujourd'hui, l'EPL, enfin, la première ligue anglaise rapporte tellement de droits télé qu'ils seront bien obligés de réfléchir quand même profondément. Mais je pense que le football anglais est tellement ancré quand on voit ce qu'est le championship. Avec combien de spectateurs de moyenne au Championship?
La deuxième division
anglaise. Plus de 20 000.
25 000. Quand on voit, c'est tellement ancré que eux, je crois qu'ils sont capables d'avoir un championnat, même si Manchester City joue pas à la première ligue, enfin, ou la joue de manière, ça n'a aucune importance pour eux, Ils peuvent aller voir Millwall, Liverpool, ça leur va très très bien, ça les dérange pas. Donc eux peuvent survivre en plus, avec des droits télé, qui peuvent survivre à une réforme de ce genre-là. Alors que nous,
la France, c'est
France, Bundesliga, tout ça.
À moins de faire
avec le Bayern qui met son équipe B, c'est fini. Il n'y a plus de championnats locaux. Il n'y a plus de championnats locaux, même les grands.
Puisqu'on parle réforme, restons-y. Et on se tourne vers l'horizon 2020-2021. Le football circus suite, donc pour terminer. De toute façon, on n'a pas fini d'en parler. C'est un feuilleton. On vous parlait hier et il y a quelques minutes de la réforme de la Ligue des Champions pour 2024. Parlons à présent de cet autre souhait de l'ECA, donc ce groupement des clubs les plus riches, on n'a qu'à le dire comme ça. Harmoniser le calendrier international et donc faire en sorte que les compétitions continentales des sélections nationales se disputent en même temps, ce qui là pour le coup n'est pas forcément ballot, ça c'est plutôt intelligent de vouloir faire en sorte que l'Euro, la Copa América et pourquoi pas la CAN se déroulent en même temps. Alors la Copa América a déjà été dans ce sens refait.
Oui, parce que la Copa América a été réformée à moult reprises, la dernière réforme.
Ah oui, on a l'impression parfois que c'est tous les 6 mois.
Aux années 87, alors là à l'époque, on avait décidé de
La France va la jouer en quelle année, là, parce que ça a l'air bien parti.
Et la Chine?
La Chine, justement, est candidate à participer l'année prochaine.
Et à l'organisation l'année d'après.
Il y a toujours un invité, de toute façon.
Non, mais la Copa América a toujours eu un peu du mal à trouver la bonne formule. Et là, il pense aujourd'hui qu'en jouant en même temps que l'Euro, ça sera bon. On verra si c'est le cas.
Donc l'Euro 2020, ça le truc. Juin 2020, l'Euro d'un côté en Europe et la Copa América de l'autre.
Tous les 4 ans. En attendant, on aura 2 Copa América des années successives, puisqu'on en a une cette année et du coup une en 2020 pour coïncider avec l'Euro.
Mais après, ils ont dit que ce sera tous les 4 ans.
Il y avait le centenaire en 2016.
Et après, ils disent que ce sera tous les 4 ans, oui.
Au moins là-dessus, c'est cohérent quand on voit un peu la fréquence, la périodicité de la Copa América, c'était vraiment anarchique. Des fois, c'était tous les 2 ans, tous les ans, tous les 3 ans, tous les 4 ans et tout. Voilà, là, on s'est mis d'accord.
Pendant longtemps, c'était quoi? Tous les 2 ans, les
3 ans. Au début, c'était 2 ans. Après, on est passé à 3 ans. Après, on est passé à 4 ans.
Ah oui, donc c'est,
anarchique.
Bon, effectivement.
D'accord. Non.
On n'enlève pas l'anarchique, alors.
Vous avez entendu parler du FIFA Gate, où il y a eu beaucoup de pots de vin qui ont été payés. Donc, du coup, on multipliait les Copa América parce que ça rapportait de l'argent aux gens qui organisaient ça, de la part des télés qui étaient censés les diffuser.
La Copa América aux États-Unis, par exemple, 2016 et tout. Bon, voilà. Un truc. Donc voilà, si on est un peu en cohérence, c'est-à-dire tous les 4 ans, au moment de l'Euro, c'est pas plus mal, sincèrement.
Ok pour l'Euro, ok pour la Copa América,
mais
quid de la CAN, nos petits amis, de la CAF qui aiment tant jouer tous les 2 ans, qui nous l'ont porté de 16 à 24 équipes, on n'est pas loin d'arriver à 32, puis un jour on qualifiera tout le monde, comme ça ce sera plus simple, et ça durera 2 mois, et les clubs seront aux anges. Est-ce qu'on peut imaginer une harmonisation de ce côté-là? Ça voudrait dire que la CAN donc reviendrait sur des années paires, et puis surtout la CAN accepterait de faire ça, d'être disputée tous les 4 ans. Waouh, cette révolution, il y a des gens qui vont mourir de faim.
L'enjeu est considérable puisque ce qui finance essentiellement la CAF et le football africain, c'est la CAN. C'est vraiment l'épreuve qui rapporte de l'argent. Les autres peuvent au mieux s'équilibrer, comme le CHAN ou la Ligue des Champions. Mais en général, le football africain perd plutôt de l'argent sur ces grandes compétitions qu'autre chose. Donc la CAN, elle est vitale. Et la raison principale du fait qu'elle ait lieu tous les 2 ans, c'est que la CAF a vraiment besoin qu'elle ait lieu tous les 2 ans, et le football africain globalement a besoin pour équiper en stade, c'est vrai, mais surtout pour l'argent, pour avoir des ressources financières. Or, la FIFA a roulé un peu dans la farine la CAF en 2017, lors de la fameuse élection où la FIFA a roulé pour Hamad. Ça, c'est pas un secret, je crois que tout le monde le sait, c'est pas un scoop. Et je trouve que la CAF, la nouvelle CAF, a été a proposé des nouvelles réformes dans la foulée, qui arrangeaient grandement notamment les clubs européens, qui râlaient parce que la CAN était en janvier, en passant en juin.
Est-ce que c'est mieux qu'être
Sauf
en
que
juin,
alors en 2019 c'est très bien.
Oui, mais en 2021, il y a une nouvelle compète qui s'appelle le Mondial des clubs.
Alors soit la Coupe des Confédérations si elle subsiste, soit le Mondial des clubs.
Puis dans Gianni Infantino, il a l'air d'y tenir à son Mondial des clubs.
Dans les deux cas, vous avez soit le champion d'Afrique, le vainqueur de la CAN 2019 disputera la Coupe des Confédérations 2021.
C'est mal barré, hein, la Coupe des
Confédérations. Soit vous avez une Coupe du Monde des clubs avec beaucoup de clubs européens.
Qui ne voudront pas libérer leurs joueurs.
Où il y aura Salah, Mané et compagnie.
Bien sûr. Donc une CAN sans les top joueurs.
Et même plusieurs clubs africains. Donc, bien sûr,
des clubs africains.
Ah oui, dans le Mondial des clubs, il y aura évidemment
parmi les meilleurs, probablement les meilleurs clubs du Maghreb ou autres.
Absolument. Donc, on va se retrouver. Alors, comment on fait? Évidemment, la FIFA passe d'abord. Normal. Donc, 10 juin, la compétition de la FIFA commence.
Et vous gardez ça.
Elle a fini le 5 juillet ou le 10 juillet. Et puis derrière, on fait une CAN au moment où les championnats vont commencer en Europe. C'est-à-dire, on commence une CAN le 20 juillet.
Oh, imaginez que ça tombe en plein ramadan. On la reporte au 15 août.
Non, ça, le ramadan, il est régulier quand même. On connaît les dates,
mais enfin, ça déplace les dates de la CAN en même temps.
Bon,
pour le ramadan.
Si on commence le 20 juillet, non seulement on gêne les clubs européens, et donc ils vont râler exactement au même titre que janvier et remettre la pression pour dire ah non, la CAN c'est tous les 4 ans et pas tous les 2 ans, donc on rentre à nouveau en plein dans le problème et voilà
il va bien falloir trouver une solution. 2021 c'est demain,
mais ce qui m'étonne, c'est qu'au moment de cette réforme, moi j'avais réfléchi modestement un tout petit peu, je m'étais dit finalement ce qui serait pas idiot compte tenu des contraintes climatiques sur le continent africain, une CAN en juin, ok, une CAN en janvier, une CAN en juin, une CAN en janvier. Comme ça, vous avez une CAN tous les 4 ans en janvier. Les clubs européens râlent une fois tous les 4 ans. Ça va, c'est supportable. C'est bon. Ça peut passer. Et du coup, en janvier, vous pouvez le faire au Cameroun, dans les pays où il pleut, en juin, juillet, etc. Et surtout, vous évitez la fameuse date 2021-2025, qui sont des années d'avant Coupe du Monde, où il y aura soit la Coupe du Monde des clubs, soit la Coupe des Confédérations. Oui,
sauf qu'on a une Coupe du Monde en hiver à venir, en 2022, donc ça risque de compliquer votre plan.
Mais la Coupe des Confédérations va sûrement gicler. Hein,
oui, mais elle est remplacée par la Coupe du Monde des clubs. Oui, donc Salah, Mané et compagnie, c'est les meilleurs joueurs africains. Oui, mais les meilleurs joueurs africains ne seront pas là.
Je suis d'accord, mais c'est pas la même chose.
Est-ce que les meilleurs joueurs...
Salah, Mané, Mareka, tous ceux dont on a parlé,
meilleurs joueurs africains vont jouer avec Liverpool la Coupe du Monde des clubs et derrière on va leur dire vous allez jouer avec le Sénégal. Ils vont avoir mal aux adducteurs.
Je suis pas sûr.
Je peux vous l'annoncer, ils vont avoir mal, légèrement mal aux adducteurs.
Ils n'auront jamais, ça veut dire pas de vacances ou alors le joueur est disponible à partir d'octobre.
Mais faisons une grande ligue mondiale, on met tout le monde dedans, on fait qu'une compétition tous les deux ans, tous les ans et puis voilà.
Non, mais c'est 10 millions de droits d'entrée.
Ce serait intéressant d'entendre la CAF répondre un petit peu à cette problématique de 2021 déjà.
Des tas de choses pour lesquelles on aimerait entendre la CAF, mais d'une seule voix, hein, pas un truc annoncé le vendredi, puis démenti le samedi, ça changerait un peu sur la CAF récente. S'ils nous écoutent, je les salue, bien sûr, sont des amis.
Non, mais ils sont respectables, ils ont pris des décisions, des options, on peut préférer en juin, on peut prendre des options, on va pas critiquer ça. Ce qui est quand même incroyable, par contre, c'est qu'on prend des options et en disant bon, on fait en 2019, en 2021, en 2023. Oui, non, mais en 2021, il y a la Coupe des Confédérations.
Il y a une solution à trouver.
Qui était prévue à cette époque-là. Comment vous allez le faire? C'est-à-dire le Cameroun, mais donc le Cameroun gagne en 2019, ou l'Égypte, ils vont jouer la Coupe des Confédérations et la CAN derrière. Non, mais jamais. Ils vont mettre la même équipe, ils vont mettre l'équipe B.
Il semblerait, Philippe, qu'on se dirige plus vers la fin de la Coupe des Confédérations et vers la Coupe du Monde des clubs. Ce qui est encore plus problématique. Là, il y a une vraie solution à trouver, parce que tout ça, la Coupe du Monde des clubs, elle est actée. 2021, juin, bing,
même si des clubs européens râlent.
Le format n'est pas acté.
Les dates ont été communiquées officiellement par la FIFA.
Donc, de toute façon, ce sera en même temps que la CAN d'après.
Non, mais le premier projet, c'était 12 clubs européens. Donc, les 12 meilleurs clubs européens, évidemment, vous avez tous les meilleurs joueurs.
Alors, on est passé à 8.
8, c'est un peu moins, mais est-ce que l'accord est trouvé à 8? Je ne sais pas.
Disons que l'UEFA doit encore définir les règles qui vont.
Non, mais 8 ou 12, ça ne change pas grand-chose. On sait qu'il y a une compétition de clubs, vraisemblablement à 99%, qui va se dérouler en juin 2021, en même temps que la CAN.
Non. La CAN sera
en même temps, ce ne sera pas
la
possible. Donc, la CAN devra être déplacée, forcément.
C'est sûr.
Non, mais les joueurs
impossible. Jamais les joueurs, les clubs accepteront et les joueurs, même eux-mêmes, diront les gars, c'est pas possible, s'arrête quand?
On aura un Liverpool-Real en finale et 15 jours après, on aura un match de poule Liverpool-Real au mois de juin. Une finale de Ligue des Champions fin mai.
Et on aura une CAN façon CHAN? Parce que c'est le truc.
C'est pas envisageable financièrement pour la CAF. C'est pas possible.
Oui, mais en même temps, voilà.
La valeur de la CAN, c'est évidemment d'avoir Salah, Mané et compagnie. Vous imaginez une CAN? Alors, une CAN avec eux? Et puis la CAN suivante, alors on se passera de tous les nos meilleurs parce qu'ils sont dans leur club Aubameyang.
Oui, parce que le mondial des clubs, c'est tous les 4 ans.
Oui, tous les 4 ans.
Donc ça veut dire qu'il y a une CAN sur deux qui peut bien se dérouler. Ouais. Donc il faut se pencher sur la question d'une CAN sur deux.
Ce que vous vouliez dire tout à l'heure, Olivier, c'est est-ce qu'il faut mettre la CAN en même temps que l'Euro et
la Copa América?
Non, ça c'est pas. Alors là.
Ça risque de nuire à la visibilité.
C'est catastrophique.
Ça nuira à la visibilité, mais quelle est la solution alors? C'est ça qui est compliqué dans cette affaire. Peut-être revenir. L'idée, s'ils sont à l'écoute, ils vont peut-être appeler Philippe Doucet. On peut leur donner le 06 en antenne pour son idée, une CAN en juin, une CAN en janvier.
Je pense que c'est possible.
Je pense que c'est le meilleur compromis.
Des matchs de l'Euro l'après-midi.
C'est le meilleur compromis.
Des matchs de l'Euro l'après-midi, en soirée, des matchs de la CAN et la nuit, des matchs de la Copa. Vous votez
Waouh.
C'est jouable. Et quand le championnat commence, on arrête de regarder le foot parce qu'on n'en peut plus.
Et quand 18h arrive à Paris, on est obligé d'arrêter Radio Foot. On vous donne rendez-vous à 21h10. Temps universel, merci à tous d'avoir été avec nous, merci à Thibaut d'avoir été là, merci à Pierre Guérin, faut continuer Pierre, sur les réseaux sociaux, ils sont là les auditeurs, faut aller les chercher, on les attend à 21h10, et la dame, on la laisse se reposer, elle se prépare pour cette journée de folie.